On ne connaîtra sans doute jamais les chiffres. Combien de morts, combien de personnes emprisonnées ou torturées. Depuis 3 semaines, le pouvoir iranien tente par tous les moyens de mettre un terme aux manifestations qui ont débuté le 16 septembre. Ce vendredi-là, la jeune Mahsa Amini, 22 ans, trouve la mort 3 jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs pour un voile mal porté. Téhéran, Chibras, Tabriz, Ispahan, partout dans le pays, la contestation grandit. Les Iraniens donnent de la voix pour réclamer la fin de la loi qui oblige les femmes à se voiler dans l'espace public. Bonjour, c'est Alexandra Cagnard. Aujourd'hui, dans Témoins d'actu, j'ai voulu en savoir un peu plus sur la situation et la façon dont les informations arrivent d'Iran. En 1979, à la faveur d'une révolution et d'un référendum, l'Iran devient une république islamique et fait de l'ayatollah Khomeini son guide suprême. Le code religieux prévaut désormais sur le pouvoir politique. Depuis la mort de Mahsa Amini, de nombreuses femmes iraniennes se filment en train de brûler leur voile ou de se couper les cheveux et publient leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Elles ont été rejointes dans les rues par des hommes et rien ne semble en mesure d'arrêter leur colère, pas même la répression très brutale à laquelle ils et elles font face. Même si c'est parfois compliqué, j'ai promis à certaines personnes de continuer à parler de ce qui se passe en Iran, m'a confié la journaliste que vous allez entendre. Mariam Pirzadeh est rédactrice en chef à France 24. Franco-iranienne, elle a été correspondante en Iran entre 2014 et 2019. Pour des raisons d'agenda, notre conversation a lieu par téléphone. Bonjour Mariam.
Bonjour.
Je suis remontée sur ton fil Twitter à la date du 16 septembre. Tu publies alors une image, on voit Mahsa Amini sur un lit d'hôpital, dans le coma. À ce moment-là, elle n'est pas encore décédée. Tu écris qu'elle est entre la vie et la mort. Son oncle, lui, s'est exprimé dans la presse iranienne sur les conditions de son arrestation. Est-ce que tu pressens déjà à ce moment-là que cette affaire va prendre de l'ampleur ?
Oui, tout de suite, en fait, je me rends compte en ouvrant mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter, qui sont très utilisés en Iran, que la photo de Mahsa Amini intubée donc sur son lit d'hôpital est extrêmement relayée. Et vu la situation dans laquelle elle se trouve, je me dis qu'elle ne va pas survivre. Et d'ailleurs, pendant quelques heures, il y a des infos contradictoires qui arrivent d'Iran, qui indiquent sa mort, puis en fait, qu'elle est encore en train de se battre pour vivre. Et finalement, l'annonce de sa mort tombe. Et là, je me dis que la colère va être immense parce que c'est extrêmement relayé. Et en fait, elle symbolise n'importe quelle iranienne aujourd'hui en 2022.
Les manifestations, ça va être immédiat, ça commence dans sa ville natale, c'est ça ?
Ça commence au moment de ses funérailles, donc dans l'islam, on enterre le lendemain de la mort. Elle vient du Kurdistan iranien, de la ville de Sarez, et elle était venue à Téhéran, il y avait des jours fériés à ce moment-là, voir la capitale, qui est une extrêmement grande ville, enfin, c'est une mégalopole avec plus de 13 millions d'habitants, et elle se fait arrêter et elle meurt. Donc le lendemain, on vit ses funérailles à Sarez, et là, en fait, ses funérailles virent à la contestation contre la République islamique, très rapidement, avec des femmes qui retirent leur voile, qui scandent des slogans contre les dirigeants de la République islamique. Et cette phrase qui est devenue un peu un slogan depuis déjà quelques années lors des contestations, « Ma'akbar dictator », c'est « À mort le dictateur ». Et là, la violence et la colère, surtout je suis surprise par la colère. Et je me dis qu'on est effectivement au début d'un mouvement qui ne va pas se tarir.
Pourquoi l'histoire de Mahsa Amini, elle mobilise à ce point ? Parce que, si j'ai bien compris, les arrestations, les intimidations par la police des mœurs, qui est chargée donc de faire respecter le code religieux, les femmes comme les hommes d'ailleurs, ils vivent cela au quotidien depuis des années.
Parce que c'est la Mahsa Amini de trop en fait. C'est qu'en fait, il y a, depuis l'arrivée de Raisi au pouvoir, donc il y a plus d'un an, en juin 2021, il y a un vrai durcissement sur les femmes, sur la société. Enfin, les femmes, elles sont vraiment ciblées. À un moment donné, il était question qu'elles n'aient plus accès aux transports en commun si elles étaient mal voilées. Il était même question de mettre en place des caméras pour vérifier si elles n'avaient pas trop de maquillage, si le foulard était bien porté. Et en fait, le fait qu'une jeune fille qui vient de province, qui arrive à Téhéran. Et en plus, moi, j'ai vu des photos d'elle, elle est voilée exactement comme toutes les Téhéranaises aujourd'hui, quoi. Enfin, une grande partie des Téhéranaises aujourd'hui, enfin, de cette jeunesse connectée. Elle est arrêtée sous les yeux de son frère. Elle se fait apparemment, selon les dires de jeunes filles qui étaient avec elle dans cette camionnette, tapée de manière très très violente par la police des mœurs. Elle finit dans le coma, elle meurt. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible que en 2022, on tue pour un voile qui est mal mis. Des Mahsa Amini, il y en a eu par le passé. Sauf que maintenant, on est à l'ère des réseaux sociaux. Donc, quand il y a trop de zèle de la part des autorités, de la part de cette police qui est totalement arbitraire, hein, on est complètement soumis au bon vouloir de cette police, ben, les Iraniens sortent le téléphone portable et relaient sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, ça ne reste plus impuni. Et je pense que tout le monde aussi s'est identifié à Mahsa Amini. Ça aurait pu être la cousine de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la femme de quelqu'un. C'est plus acceptable maintenant par la jeunesse et par les Iraniens. C'est trop, en fait. C'était la goutte d'eau.
Ces manifestations, aujourd'hui, c'est partout, dans toutes les provinces, le jour, la nuit?
Alors, ça touche toutes les classes sociales, ça c'est sûr. Ça touche les grandes villes, ça touche des provinces un peu plus reculées. Mais ce ne sont pas des... Il n'y a pas l'ampleur, par exemple, de 2009, où ça touchait essentiellement Téhéran, où il y avait 3 millions de personnes dans les rues. Là, c'est compliqué de savoir. Je vois en ce moment des manifestations à Mashhad, qui est une ville très conservatrice et très religieuse. À Shiraz, à Téhéran évidemment, dans le sud-est de l'Iran, à Zaïdan et évidemment dans le Kurdistan iranien. C'est des poches en fait qui émergent. Il va y avoir des manifestations par exemple d'agriculteurs à Isfahan, des enseignants dans le sud de l'Iran qui vont faire grève. Donc chaque jour c'est différent. C'est impossible de donner une typologie là. C'est tellement mouvant, c'est tellement évolutif. Ça change vraiment pratiquement d'heure en heure.
C'est très disparate, c'est ce que tu dis. C'est pas finalement quelque chose d'organisé.
Non, c'est un mouvement qui à la base est spontané, c'est pas organisé. En fait, il y a des creux et il y a de nouveau des manifestations, de nouveau des contestations. Et ça va au gré aussi des fermetures, des coupures d'Internet. On a une difficulté par rapport à il y a 3 semaines pour avoir les vidéos. Donc ça se trouve, là, il y a des manifestations partout ou dans des villes où on n'a pas des vidéos qui sortent forcément. Et c'est ça la difficulté de couvrir ce mouvement et d'en parler, c'est de savoir exactement ce qui se passe. Parce que
il y a un décalage entre le moment où les vidéos sont faites et où elles sont publiées en raison de ces coupures d'Internet.
Voilà, exactement. Il y a des coupures qui freinent, qui tentent de freiner la divulgation de ces vidéos. Elles arrivent à sortir quand Internet s'ouvre de nouveau. Il y a aussi des manifestants qui ne prennent pas leur téléphone parce que s'ils sont arrêtés... Si les autorités tombent sur un téléphone, ça peut être encore plus grave pour eux. Il y en a qui filment de leur balcon, ce qui s'est passé à l'université de Sharif à Téhéran. Ce sont des gens qui ont commencé à filmer de leur balcon les autorités qui encerclaient l'université, qui font rentrer dans l'université. Donc en fait, c'est un travail très minutieux. Il faut qu'on ait identifié des comptes qui sont fiables. Et il y en a 2 ou 3 que moi j'ai identifiés et qui effectivement arrivent à sortir des vidéos qu'on peut tracer, des vidéos qui sont fiables. Mais c'est très très dur de pouvoir les vérifier. Il y a notamment une jeune fille, ça m'a marqué, une jeune fille blonde qui part, qui s'accroche les cheveux en chignon et qui part le poing levé pour manifester. On a annoncé à tort pendant plusieurs jours qu'elle était morte, qu'elle avait été tuée. En fait, c'était une autre jeune fille. Hadis qui avait été tué, et ce n'était pas cette jeune fille blonde. Cette jeune fille blonde a dû faire un démenti auprès de la BBC en personne en disant non, je suis vivante, je n'ai pas été tuée. Donc voilà, c'est très dur de vraiment savoir ce qui se passe, mais on arrive quand même à voir les noms de personnes, de jeunes filles ou de jeunes hommes qui ont été tués. Et notamment là, il y a peut-être, c'est la nouvelle Mahsa Amini, c'est une jeune fille qui s'appelle Nika, qui avait 17 ans, dont l'histoire est terrible. Ses parents n'avaient pas de nouvelles d'elle, son corps a été retrouvé. Et les autorités ont demandé à venir l'identifier, ils n'ont pas voulu rendre le corps à ses parents, ils ont les parents en dépression. Impossible de faire des autopsies aussi pour savoir exactement de quoi est morte cette jeune fille, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a été massacrée. Donc c'est très dur en tant que journaliste ici, mais aussi en Iran évidemment, de pouvoir suivre toutes les personnes qui ont été tuées, de pouvoir tracer, c'est vraiment difficile.
Tu parlais de l'université, on voit que les étudiants sont extrêmement actifs en ce moment, manifester contre les répressions du régime, ils l'ont déjà fait, là ça gagne aussi les collèges et les lycées, les plus jeunes, ils se sentent vraiment portés par leurs aînés.
Il y a beaucoup de spécialistes de l'Iran qui les appellent la génération Z, donc ce sont des gens d'une 20aine d'années, qui n'en peuvent plus en fait de toutes les restrictions dans lesquelles ils vivent. Mais eux, on sent bien que aller manifester, contester le pouvoir, contester le régime est plus fort pour eux. Donc ils sont prêts à faire face à la mort et à l'arrestation que de continuer à vivre avec tout ça. C'est une jeunesse qui est extrêmement déterminée. Je ne dirais pas qu'elle est plus forte que leurs aînés, mais c'est une nouvelle jeunesse qui ne veut plus de tout ça, en fait, qui ne veut plus de ce régime islamique et qui veut vivre, qui veut vivre comme n'importe quel jeune du monde, en fait.
On a vu aussi, Mariam, des contre-manifestations pour soutenir le régime. Il y en a toujours. C'est quoi le ratio, la proportion? Celles-ci, elles sont peut-être plus diffusées?
On voit quand même que les manifestations pro-régime, elles sont parsemées de toute façon. Il y a beaucoup moins de personnes que d'habitude. On estime environ à peu près 30% de la population qui soutient encore la République islamique, en tout cas si on se base sur les toutes participations aux élections. Mais tout le monde ne soutient pas par idéologie, mais par intérêt, parce qu'ils sont fonctionnaires, parce qu'ils sont obligés d'être dans ces manifestations, parce que s'ils ne vont pas manifester, ils perdent leur emploi. Donc c'est très difficile de savoir exactement qui soutient encore les idéaux de cette République islamique. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'ils sont extrêmement minoritaires par rapport à la population qui, elle, a une soif démesurée de changement.
Là, on est 3 semaines après le début des contestations. Les Iraniennes et les Iraniens, tu es en contact permanent avec eux. Ils te disent quoi? Est-ce que les récits, ils sont toujours les mêmes ou il y a une évolution?
Non, la colère, elle ne retombe pas. Et en plus, la répression qui s'abat depuis 3 semaines les énerve encore plus, les rend encore plus en colère. Donc, moi, ils me disent qu'il faut un changement. Est-ce qu'ils veulent une révolution? Ça, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, il y a des gens qui se disent une nouvelle révolution, pour quoi faire? Ils savent ce qui s'est passé il y a 43 ans, ils voient ce qui se passe autour d'eux, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Parce qu'il n'y a aucune alternative politique pour l'instant. L'opposition à l'étranger, elle n'est pas organisée, elle n'est pas appréciée par une très grande partie, notamment les moudjahidines du peuple, qui ne sont pas du tout appréciés par les Iraniens. Qui? Peut-être des personnalités de la société civile iranienne qui pourraient être le futur de l'Iran, mais là, il n'y a pas de leader dans ces manifestations, ce n'est pas encore très clair.
Dans l'hypothèse où les autorités lâcheraient un peu de lest, est-ce que, selon toi, ça serait suffisant ou on est vraiment parti sur un mouvement très profond?
Ils ne vont pas lâcher du lest pour le moment, parce que Ebrahim Raisi, s'il lâche sur le voile, il lâche sur tout. Il le sait très bien. Enfin, je veux dire, si ce régime autocrate et théocratique veut lâcher sur le foulard, qui est l'ADN, le symbole de cette République islamique, ils vont devoir lâcher sur beaucoup d'autres choses. Donc c'est toute la condition de la femme en Iran, leur système est en péril s'ils lâchent. Donc là, ils sont plutôt dans la logique inverse, de réprimer encore plus fort.
On connaît les chiffres exacts du nombre d'arrestations, de morts ou c'est impossible?
On ne saura pas les chiffres. Là, on est à plus de 150 morts. Lors de la contestation de 2019, il y a eu 1500 morts officiellement. Là, on ne sait pas ce qui se passe. Je sais que les geôles de prison sont pleines. Ce qui est sûr, c'est que la répression, elle est en marche et elle est féroce depuis 3 semaines. C'est la réponse des autorités à ce mouvement.
Moi, ce qui m'a frappé aussi dans les vidéos qui circulent, c'est que les manifestants, ils osent désormais s'en prendre aux forces de l'ordre. Ça, c'est du jamais vu en Iran?
Jamais vu, oui, non. Depuis quelques années, il y a quand même des slogans contre la République islamique. Ça, c'est sûr. De faire reculer les forces de l'ordre, c'est nouveau. Et là, on voit les forces de l'ordre qui, des fois, fuient, en fait. Enfin, en tout cas, c'était le cas il y a 10 jours. Mais là, on a l'impression que plus rien ne leur fait peur. Et c'est ça qui est incroyable dans ce mouvement, c'est qu'il y a tellement de courage. Là, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on vit dans un pays libre. Mais ce qu'elles font, c'est... Enfin, elles risquent leur vie.
Dès les premiers jours de manifestation, le président Ebrahim Raisi a promis une enquête sur les conditions de l'arrestation de Mahsa. Le guide suprême, lui, ne s'est exprimé que le 3 octobre. Il a dénoncé une orchestration occidentale de la révolte. On a l'habitude de cette rhétorique. Mais là, on est, si j'ose dire, dans une affaire interne, plus nationale. Ses propos, ça traduit quoi?
Ça traduit qu'il y a une fébrilité du côté des autorités, ça c'est sûr. De toute façon, le guide suprême Ebrahim Raisi, lorsqu'il s'exprime, les deux, ils indiquent qu'ils vont reculer devant rien. Il n'y a aucun geste d'ouverture envers les manifestants.
Aucune fragilité de sa part?
Il est fragile, lui. C'est un secret pour personne. Un jour, il va décéder, il va se poser la question de sa succession. Et pour le moment, effectivement, il reste le maître tout-puissant de l'Iran, mais qu'est-ce qui va se passer après? De toute façon, il ne veut montrer aucune fragilité, aucun geste d'ouverture envers ses manifestants, ça c'est évident. Mais son message est très clair, c'est-à-dire que si, c'est ce qu'avait dit aussi l'ayatollah Khomeini, si jamais la République islamique est en danger, on la défendra.
En fait, on est dans une escalade de part et d'autre.
Exactement, oui. de à la fois une colère qui ne se tarit pas, qui ne se calme pas, et face à eux, un appareil répressif en marche, comme d'habitude en fait.
Tu es très active sur Twitter, Mariam, on en parlait tout à l'heure. Il y a 3 jours, tu as partagé une vidéo particulièrement violente. On voit un policier à moto, il se retourne vers une personne qui filme la rue, il tend son arme et là, c'est l'écran noir. Toi qui connais bien ce pays, qui as vécu, comment tu vis ça, toutes ces images qui t'arrivent ?
Bah, ça fait 3 semaines que je dors pas beaucoup, que je pense qu'il y a ça. J'essaye d'être la voix, c'est présomptueux de dire ça, mais moi, les messages que je reçois de là-bas, c'est qu'il faut parler de nous, quoi. Ne nous oubliez pas. Ils sont très sensibles à l'attention de la communauté internationale sur leur cause, mais bien sûr, les images de l'université de Sharif, elles m'ont bouleversée, mise en colère. En plus, Sharif, c'est l'équivalent de Polytechnique en France, donc c'est-à-dire qu'ils sont en train de vouloir massacrer leur élite. Et au-delà de ça, ça reste des étudiants. Des étudiants, je vois sur cette vidéo des étudiants qui crient, qui courent, avec un sentiment d'effroi, de peur sur le visage. Et moi, je l'ai eu, cette peur en Iran. Alors, je n'ai pas manifesté, mais je veux dire, il y a des fois, on sait que notre vie, notre avenir, enfin, est aux mains de personnes arbitraires. Enfin, c'est pas un état de droit. Donc, de voir la peur sur le visage de ces étudiants, c'est bouleversant.
Tu disais, c'est important pour tous ces manifestants qu'on relaie leurs paroles. C'est vrai que ces dernières semaines, toi, tu es extrêmement sollicité par les médias. On t'a vu à la télé, on t'entend à la radio. C'est important aussi pour toi de répondre à ces demandes. Est-ce que c'est aussi une manière de pallier le fait qu'en Iran, être journaliste aujourd'hui, relayer ce qui se passe, c'est extrêmement compliqué, voire impossible ?
Oui, c'est notre rôle. Moi, c'est mon rôle en tant que journaliste, c'est mon rôle en tant que franco-iranienne. Et je l'ai promis aussi à certaines personnes de continuer à en parler, quoi qu'il arrive, même si je ne dors pas beaucoup. J'essaie de faire du mieux que je peux. J'ai des attaques de la part de personnes ici. Alors je me dis que je fais bien mon travail parce que j'ai des attaques de ceux qui soutiennent le régime et ceux qui ne sont plutôt du côté royaliste ou moudjahidine du peuple. Donc si j'arrive, je ne mets pas d'accord tout le monde, ça veut dire que je me dis que je suis dans le vrai. Mais c'est dur, quand c'est hyper dur de pouvoir mettre un terme sur ce qui est en train de se passer, de le définir très précisément. La société iranienne, elle est tellement fragmentée, elle est tellement différente, enfin, c'est impossible de faire une radiographie, quoi. Mais en tout cas, un des slogans, c'est « Doyama Beshin ». Ça veut dire « Soyez notre voix ».« Be our voice ». Et je sais que, les journalistes iraniens ne peuvent pas vraiment faire leur travail, quand ils le font, ils sont en prison. C'est le cas d'à peu près 30 journalistes qui sont encore en prison, de manière, enfin, officiellement, ça se trouve c'est beaucoup plus. Bah, nous, on a la liberté de pouvoir le relayer avec la matière qu'on a ici. Et ça reste compliqué, en fait. Mais c'est nécessaire, enfin, c'est à notre contribution en tant que journaliste, en tant que binationaux, ça c'est sûr.
Retourner en Iran un jour, ça fait partie de tes projets ?
Bien sûr, c'est très personnel, mais j'ai un enfant que ma famille ne connaît pas. Moi, je rêve de lui montrer le pays de son grand-père. Ne pas aller en Iran, c'est une énorme souffrance, mais je ne peux pas me taire, en fait. Et de toute façon, journaliste binational, je suis vue, quoi qu'il arrive, par les autorités de mon pays, comme une opposante, alors que je ne suis pas une opposante, je suis journaliste, donc moi je rapporte les faits, je reste factuelle, j'essaie de ne pas rentrer dans l'émotion même si c'est difficile, mais je suis vue comme une opposante et c'est douloureux. Il y a des millions de personnes qui peuvent plus aller en Iran, des millions d'Iraniens qui n'attendent que ça, donc ils ont peut-être une radicalité dans leurs propos. Bien sûr, il y a beaucoup de millions de personnes qui espèrent revoir leur pays un jour avant leur mort. C'est terrible. Terrible parce que, vous savez, les Iraniens, ce sont des gens qui sont très, très patriotes. C'est-à-dire que, je me rappelle à un moment donné, il y a une dizaine d'années, il y avait des risques qu'Israël attaque l'Iran. Et même les gens qui ne soutenaient pas la République islamique me disaient « Mais moi, je me battrais contre Israël s'il le fallait ». C'est-à-dire que c'est la patrie, l'Iran, c'est pas l'Iran des ayatollahs ou des religieux. C'est notre Iran à tous. C'est un pays qui est tellement fabuleux, qui est tellement... C'est d'une tristesse d'empêcher ses citoyens de pouvoir y retourner. Une tristesse évidemment beaucoup moins forte que celle que vivent les Iraniens au quotidien, ça c'est évident. Mais pour moi, l'Iran, c'est le plus beau pays du monde, avec la France, évidemment.
Merci Mariam pour cet éclairage, parce que je sais que ton agenda est extrêmement chargé.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur votre plateforme d'écoute. Ça donne encore plus de visibilité à Témoins d'Actu. À très vite.